Le paddock RMC, Kylian Verhove.
Salut à tous, bienvenue dans votre warm-up du Grand Prix de Grande-Bretagne, 9e manche du championnat du monde de Formule 1. Et s'il existe des circuits, il existe aussi des monuments et Silverstone fait partie de cela, un ancien aérodrome militaire des pistes transformé en circuit et un rendez-vous qui allait changer à jamais l'histoire du sport automobile. 13 mai 1950, devant près de 100 000 spectateurs et la famille royale britannique, les feux s'éteignent pour la toute première fois d'un championnat du monde de Formule 1. Depuis, la légende est née. Silverstone est devenu le théâtre de tout ce qui fait la magie de la Formule 1 et qui dit Silverstone dit écurie britannique, McLaren, Aston Martin, Cadillac, fortune diverse depuis le début de saison évidemment. On va s'interroger, le fiasco Adrian Newey, le calvaire Fernando Alonso, Aston Martin est-il tout simplement le plus gros flop de ces dernières années en Formule 1? Les McLaren sont-elles vraiment décevantes? Peuvent-elles encore revenir? Et puis où en est Cadillac dans son développement? Est-ce que c'est vraiment une surprise de les voir autant en difficulté? On dira évidemment aussi un petit mot sur les pilotes à domicile. Ils sont 5 au total, Hamilton, Russell, Norris, Bierman et Lindblad. Et pour évoquer tous ces sujets avec moi aujourd'hui, c'est Raphaël Bette et Ilias Barry. Salut messieurs, comment allez-vous?
Hello, écoute quelle intro Kylian,
tu nous
mets l'eau à la bouche.
Voilà, on est dans le berceau de la Formule 1 là, on peut pas faire mieux pour ce week-end de Grand Prix. Ilias, ça va ton rôle?
Salut, ça va très bien et vous?
Ça va très bien, écoute. Est-ce que t'aimes les Lego Ilias?
J'adore les Lego, ouais. Ça coûte très cher mais j'adore ça.
Ça va coûter très cher encore ce week-end, je pense qu'ils vont refaire la course avec des Lego pour la parade des pilotes, je pense que ça va encore coûter très cher. T'aimes bien ça, Séraph, hein?
Ah bah oui, bien sûr, on est tous fans de Lego tout petit et voir cette pilote jouer avec des cartes, parce que ça va être des cartes en Lego, on va effectivement bien se marrer, c'est toujours des belles images.
Ouais, je pense que ça va être marrant. Petit rappel quand même avant de démarrer, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce podcast, abonnez-vous au podcast et abonnez-vous au compte Instagram du Paddock RMC, c'est le meilleur coup de pouce que vous pouvez nous faire, merci à tous. Et maintenant, direction Silverstone. En Angleterre, et je vais vous développer déjà le programme du week-end. Ça change un petit peu des dernières semaines, surtout qu'on est dans un week-end en format sprint. Première séance d'essais libres vendredi à 13h30, les qualifications pour la sprint à 17h30. Samedi, course sprint à 13h et les qualifs à 17h. Et enfin, la course, ce sera dimanche à 16h, à suivre évidemment sur RMC avec Jean-Luc Roy. Aux commentaires, messieurs, un mot du circuit avant de commencer. Je l'ai dit, c'est un des plus emblématiques, évidemment, de la saison de Formule 1, mais c'est aussi un des plus rapides du calendrier, Séraphin.
Tout à fait. Circuit, tu l'as dit, qui est au calendrier depuis 1950, depuis le début du championnat du monde de Formule 1. Un monument, un circuit effectivement très exigeant aussi, hein, assez rapide, 5,8 km, donc assez long. Mais non, on apprécie voir ces monoplaces, circuit avec des virages moyennes et haute vitesse, avec des enchaînements assez fous, Makot, Begel, Chapelle, évidemment, visuellement, c'est aussi très impressionnant, et on sait que pour les pilotes, ils se régalent. Moi, je trouve que c'est une période aussi, là, la période européenne, qui fait plaisir, où on arrive sur des tracés historiques, on a toujours plutôt des bonnes courses, il y a Spa qui va arriver aussi, autre monument, donc c'est, je trouve, une bonne période, là, sur la Formule 1, et très exigeant aussi comme circuit pour les pneumatiques, évidemment, avec ces longs virages. On sait que les chaleurs aussi annoncées sont plutôt élevées pour Silverstone, donc je pense que la dégradation et la gestion des pneumatiques va être aussi un élément important ce week-end. Et tu l'as dit, c'est important de le dire, c'est que c'est un week-end sprint. Et la dernière fois qu'on avait eu un week-end comme celui-ci, c'était en 2021, qu'on a introduit justement.
C'était le tout premier, ouais,
ce genre de week-end. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu, donc il va falloir voir aussi comment on gère avec ces nouvelles voitures, avec la récupération et le déploiement de l'énergie. C'est aussi des questions qu'on va rapidement observer dès les séances. Moi, je suis un peu craintif sur l'aspect, parce qu'on déploie, il y a quand même beaucoup de longues courbes qui se prennent à pleine charge et j'ai peur qu'on ait un peu de récupération un peu excessive. J'espère que ça va pas être trop le cas, mais j'ai un peu une petite crainte là-dessus.
Tu as commencé à en parler niveau météo, on annonce des fortes chaleurs.
On annonce un petit peu moins quand même que l'Autriche,
que le week-end, j'espère.
Très chaud. Mais franchement, là, de ce que je regardais, c'était autour des 22-23 le vendredi. On devrait monter à 26-27, donc température de l'air hein, toujours. Le dimanche, donc encore plus chaud, donc tempête piste assez élevée. Donc ça va rajouter aussi en difficulté pour gérer les gommes, ouais.
Ilias, cette saison européenne, tu l'aimes bien aussi. On sait que c'est des circuits que les écuries et les pilotes connaissent quasiment par cœur. Est-ce que là, c'est le grand moment où on peut enfin essayer de juger les monoplaces et les différentes écuries selon le classement?
Ouais, forcément, parce que les écuries ont plus de data sur ces circuits. Mais la tournée européenne, je l'aime beaucoup parce que déjà, il y a beaucoup plus d'arrêts avec les fortes chaleurs. Et Serafin l'a dit, on retourne sur un circuit mythique. Haute dégradation plus haute température, ça veut dire aussi sûrement deux arrêts minimum, plus Grand Prix sprint, course sprint, donc très peu data en plus pour les écuries. Donc je pense qu'on va avoir un très bon week-end.
À l'époque, le week-end sprint dont tu parlais, Serafin, c'est Max Verstappen qui l'avait emporté à Silverstone. Et puis on en sera aussi déjà au quatrième week-end sprint de la saison, après Chine et Canada qui avaient été remportés par George Russell et Miami par Lando Norris. Qu'est-ce que ça change concrètement? Tu as commencé à en parler, Ilias, ce week-end sprint à Silverstone. Est-ce que ça peut complètement rebattre les cartes d'un Grand Prix qui était habituellement sans ce week-end sprint?
Bah, clairement, surtout à Silverstone, en fait, c'est les pilotes qui ont déjà la confiance dans la voiture vont pouvoir aborder le Grand Prix de la meilleure des manières, le week-end de la meilleure des manières, et dans ce cas, avoir un petit plus. Je pense à Russell ces derniers temps, qui a tendance à mieux aborder les week-ends qu'Antonelli, qui a tendance plutôt à le rattraper. Si on continue sur les pilotes, je pense à Norris qui est un peu en confiance, donc il peut surtout sur son circuit bien tirer. Hamilton, qui a beaucoup plus de confiance que Charles Leclerc. Donc je pense que voilà un peu ces pilotes-là, notamment les Britanniques, qui ont de la confiance et qui ont... la data, on va dire, sur ce circuit, vont pouvoir bien aborder le week-end et être performant dès le début.
T'es d'accord, Serafin?
Oui, c'est sûr. Sur ce week-end déjà, les grands prix avec les pilotes qui sont à domicile, ça joue forcément. On est toujours un effet, on est devant son public. On pense aussi à toutes les équipes aussi qui ont leur usine à proximité. Donc, on fait venir beaucoup de monde. Et pour ce qui est de l'abord d'un week-end sprint, moi, ce que je trouve intéressant, notamment dans cette nouvelle formule, c'est qu'on peut changer. On a rompu la règle de parc fermé. Donc, c'est-à-dire qu'entre la journée du samedi, on a la qualification et la course sprint, on va pouvoir changer ensuite les réglages pour la course du dimanche. Et donc ça, ce qui permet à des écuries ou des pilotes qui ont mal pris un mauvais chemin jusqu'au début du week-end, de pouvoir changer les réglages. Et on a vu que ça avait parfois eu des grosses incidences sur la gestion d'une course de dimanche. Donc c'est en ça que je trouve que c'est intéressant. Et où ça peut évoluer d'un jour à l'autre.
On va suivre ça évidemment avec énormément d'attention. Plongeons-nous dans ce warm-up 100% british avec, faut dire les termes quand même, l'écurie la moins performante du plateau. Avant cette saison, Aston Martin affichait fièrement son ambition. On va y revenir évidemment, de faire de cette année un tournant dans son histoire avec le nouveau règlement, le partenariat avec Honda, le recrutement d'Adrian Newey et un Fernando Alonso toujours en forme. Mais on a vite compris quand même que la réalité allait être bien différente de ce qui était annoncé. Cette semaine, alors qu'il s'est montré extrêmement discret depuis le début de la saison, Adrian Newey a pris la parole dans une longue interview publiée sur le site d'Aston Martin. Il a évidemment décrypté les raisons de ce qui ressemble pleinement à un fiasco. Serafin, juste avant d'évoquer dans les détails les principales faiblesses des monoplaces, qu'est-ce qui faisait que, avant ce début de saison, Aston Martin affichait des ambitions clairement démesurées avec ce qu'on voit depuis ce début de saison?
Eh ben en fait, on va revenir un peu quelques années en arrière, parce que tu l'as dit, cette année, c'était l'aspect un peu concrétisé, ce qu'on avait fait depuis des années en arrière. Et pour ça, effectivement, il y a un homme qui est central, c'est Lawrence Stroll, qui est le propriétaire de l'écurie, homme d'affaires canadien, qui avait racheté à l'époque, on se souvient, on revient en 2018, les actifs de Force India, qui était l'ancienne écurie, qui était en ce moment en grande difficulté financière, et ce qui avait donné naissance à Racing Point pendant deux années. On se souvient de ces voitures roses, hein, notamment avec un certain Perez et un certain Lance Stroll, du coup, qui était arrivé à la suite de l'écurie Williams. Ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, en 2020, on annonce que Lawrence Stroll, avec un consortium, prend 16% des parts d'Aston Martin, ce qui lui permet de rebaptiser cette écurie et de lui mettre à profit, donc ce qui devient Aston Martin F1 Team en 2021. Et l'ambition affichée, c'est d'en faire une écurie d'usine. Et quand même, on a des gros moyens qui sont clairement dits avec cette écurie pour les prochaines années. Donc, ce que va faire justement Lawrence Stroll, c'est investir pour lancer la construction d'une nouvelle usine, un énorme campus à Silverstone. On s'en souvient, donc ça va être des longs travaux pendant plusieurs années. Donc une nouvelle usine, une nouvelle soufflerie aussi, des nouvelles installations techniques. Il y a aussi les nouveaux partenaires. On pense aussi au développement autour de l'informatique, de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui essentielle pour le développement de ces voitures. On fait venir aussi en 2021 quand même Sébastien Vettel, qui n'était pas reconduit jusqu'à présent avec Ferrari, donc aussi quadruple champion du monde, ce qui n'était pas rien. Il obtient d'ailleurs son premier podium, je l'avais relevé, c'était en Azerbaïdjan en 2021 avec une deuxième place. Et ensuite, on va évoluer. En 2022, on va mettre de côté donc, le team principal historique de cette écurie depuis 2009, qui était Otmar Sasseur, qu'on met à la porte. On a beaucoup de remaniements en interne, on fait venir beaucoup de monde. En 2023, donc Sébastien Vettel partira à la retraite, on fait venir Fernando Alonso quand même, c'était un tournant. Donc avec carrément cette ambition de mettre un autre pilote champion du monde également pour construire cette écurie qui montait en puissance. Et on se souvient qu'en 2023, ça fonctionnait vraiment bien. Il y avait quand même 3 podiums sur les 5 premières courses. On jouait la bataille derrière les Red Bull, hein, parce que c'était une saison dominée quand même par Max Verstappen et par Red Bull, mais il y avait des performances, donc c'était encourageant. On fait venir des grosses têtes pour développer cette voiture, c'est important, comme par exemple Enrico Cardile de chez Ferrari, Eric Blandin aussi de Mercedes, de gros noms, Andy Coel aussi qui prendra la relève et d'autres personnes. Donc on construit pas à pas. Et aussi, on annonce, tu l'as dit au tout début, le partenariat quand même avec Honda qui devient motoriste exclusif pour cette écurie à partir de la saison 2026. On savait qu'il y avait un énorme changement moteur de réglementation. Et donc, c'est tous ces points-là. Et tu l'as dit aussi, bien évidemment, on l'oublie, mais il faut le citer, Adrian Newey qui s'en va de chez Red Bull donc en 2024 pour arriver chez Aston Martin en début 2025. Donc, d'abord comme responsable de la partie technique sur la voiture, puis fin 2025 comme directeur principal de l'écurie. Donc, c'est pas rien. Et il y a eu aussi quelques remaniements avec des départs aussi, c'est important de le dire fin 2025. Donc, on sait qu'aussi en interne, on a aussi changer des choses. Donc c'est ce moteur, c'est ces pilotes quand même, Fernando Alonso et Lance Stroll qui a énormément d'expérience. C'est cette nouvelle usine qui est de plus en plus aussi affinée. On doit aussi mettre en marche simplement des outils de simulation, réussir à les faire fonctionner, qui devait donner naissance à une écurie clairement de top team, hein, on peut le dire. C'était ce qui était annoncé, ce qu'on envisageait pour cette année 2026. Et tu l'as dit, le bilan, aujourd'hui, on n'a qu'un point, tout simplement, un point avec Aston Martin, et qui n'a même pas participé aux essais à Barcelone en début de saison. Donc, effectivement, on est très, très déçus partout, en tant qu'observateur et en tant que fan de cette écurie des performances.
Ilias, quand on entend tout ça sur le papier, on pouvait s'attendre à ce que les ambitions qui étaient affichées pouvaient être respectées par la suite, quand même. Il y a quand même une base qui paraît assez solide sur le papier pour Aston Martin.
Mais c'est clair que cette année, comparé aux attentes qu'on avait, c'est un fiasco. Parce que vous l'avez dit, Adrian Newey, peut-être le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1, on s'attendait forcément à une voiture compétitive qui, au moins, je ne dis pas joue la gagne, mais qui pouvait un peu titiller les 4 top écuries. Quoi. Au final, c'est catastrophique. Et au-delà d'une voiture mauvaise, c'est qu'en fait, on ne sait pas. Parce qu'une voiture mauvaise, on connaît ses axes d'amélioration, on sait où est-ce qu'il faut travailler pour l'améliorer. Là, le problème, c'est que c'est mauvais partout. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut focus. J'avais cette idée, c'était comme dans un avion. S'il y a un voyant qui s'allume, c'est le moteur. Bon, on sait que le moteur, il faut l'améliorer. Si tu as tous les voyants qui s'allument en rouge et que l'avion commence à piquer du nez...
Trop tard, quoi.
Bah là, c'est compliqué. C'est compliqué de savoir d'où vient le problème initial, mettre le doigt dessus et améliorer la voiture. C'est pour ça que je pense que pour l'instant, 2026, c'est déjà mort.
Ouais.
Et à voir s'ils peuvent redresser la barre en 2027.
Pas loin de le dire. En plus, Adrian Newey, dans l'interview qu'il a accordée à Aston Martin, il parle notamment d'un retard à l'allumage et d'une projection trop tardive sur 2026. Je vais le citer. Nous n'avons commencé un travail sérieux sur la monoplace 2026 que mi-mars 2025. Nous avions plusieurs mois de retard sur nos rivaux et c'est un gros écart à combler. Sur le châssis et le moteur, nous avons été en retrait dès le début. Avec le recul, nous nous sommes probablement fixés des objectifs trop élevés et il ne faut évidemment jamais oublier la qualité des adversaires sur la grille. Séraphin, comment on explique cette erreur de jugement entre guillemets pour Aston Martin?
Elias l'a très bien dit, c'est multifactoriel. Hein. Effectivement, il y a plusieurs éléments. Alors, de cette déclaration, cet aveu qu'on a trop tardé en fait à développer la voiture et à tester en soufflerie. Donc un retard tout simplement de développement sur une monoplace. Et on sait que beaucoup d'écuries l'année dernière avaient fait des choix d'anticiper, même d'arrêter. On sait qu'Alpine avait se projeté sur 2026 avec cet énorme changement de réglementation. Après, pour ce qui est du rôle d'Adrian Newey, il est quand même arrivé. Donc, officiellement, il a commencé à travailler seulement, il me semble que c'était mars, début 2025. Donc, ce qui n'est pas non plus tôt, hein, parce qu'on a déjà en fait travaillé en interne. Donc, je pense qu'il y avait déjà des bases, tout simplement. Et lui, il est arrivé, il a travaillé avec d'autres. On a essayé de structurer tout ça. Donc, il ne pouvait pas non plus faire ce qu'il voulait. Et pour ce qui est de la voiture, de cette partie, c'est vrai qu'il a fait aussi des choix assez audacieux hein, sur l'aérodynamisme de cette voiture. Donc, peut-être que lui a voulu travailler cette partie-là et il avait de l'ambition et il avait raison. Mais sauf qu'on l'a dit précédemment, il y a cette partie-là, mais le moteur, évidemment, avec cette réglementation, il est essentiel. Et il y a aussi une grosse part de responsabilité avec Honda qui ont tout simplement développé un moteur qui n'est pas fiable et qui n'est pas performant à la hauteur de ce qu'on peut demander aujourd'hui en Formule 1. Donc il y a plusieurs éléments qui rendent cette début de saison catastrophique du point de vue sportif en tout cas.
Mais qui est le principal responsable de tout ça? Parce que là on parle de Honda, on parle de Newey, on parle des équipes avant l'arrivée d'Adrian Newey. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut, ou quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs qu'on peut principalement pointer du doigt, ou c'est vraiment un tout qui fait la saison catastrophique d'Aston Martin?
Quand il y a autant de problèmes, c'est compliqué de pointer du doigt une seule personne ou un seul facteur. J'ai vu qu'on parlait beaucoup du moteur Honda et qu'on pointait un peu à la même manière qu'Alpine avec Thierry Châtillon le moteur Honda. Je pense que c'est pas une seule personne qui est responsable de ça. C'est tout simplement, en fait, depuis le début, tout est allé mal et on n'a pas réussi à redresser la barre à temps.
Un petit cercle vicieux. Séraphin, t'es d'accord?
Oui, je pense que ce serait une erreur de jeter la faute sur une entité ou un département.
On peut pas incomber Adrian Newey ou Honda ou.
Non, je pense que voilà, il y a plusieurs facteurs. Peut-être que lui a été un peu trop gourmand, peut-être, dans cette voiture et qu'il aurait dû peut-être faire des choses un peu plus simples, je sais pas, pour développer une voiture qui soit d'abord saine et ensuite on l'améliore. La partie moteur, effectivement, qui était décevante et on aurait espéré qu'elle soit meilleure. Je pense que voilà, il y a plusieurs éléments et même aussi on apprend dans cette interview que même en interne, dans la façon de travailler aussi, il y a des grosses erreurs structurelles. J'entendais qui disait que même pour commander des pièces et les recevoir, il y avait des problèmes, ça paraît lunaire. Je pense que les voir plus bas que même Williams, qui aussi a fait des erreurs et qui n'a pas bien développé. Mais je veux dire, on pouvait pas. Je pense que le minimum, c'était le midfield, en fait. Donc, les voir aussi bas, c'est très, très difficile.
Oui, et puis comme tu l'as dit, comme si ça ne suffisait pas, Aston Martin a dû composer avec un système vieillissant et défaillant. Je vais reciter Adrian Newey. Il a dit « Nous nous appuyons sur des outils et des processus qui ont été rafistolés et bricolés pendant des années. Certains étaient hérités des débuts de l'équipe Jordan qui était installée ici à Silverstone, bien avant le retour d'Aston Martin sur la grille. À un moment, un système sur lequel on apporte une succession de correctifs n'est tout simplement plus adapté. Il a fallu se confronté à ça. C'est quoi le regard sur ça? Parce que même là, on voit que les bases ne sont pas si saines que ce qui était annoncé. Comment on peut travailler dans une Formule 1 qui est censée être au cordeau? Comment on peut expliquer que Aston Martin soit obligé de s'appuyer sur des usines qui sont défaillantes? Je trouve ça lunaire dans cette interview.
C'est peut-être là où on va devoir pointer du doigt le problème, c'est que tu ne peux pas bien travailler dans des infrastructures qui ne te permettent pas de bien travailler, tout simplement. La base là où tu peux t'entraîner, je pense souvent faire un petit rapport au football à la commanderie de l'OM qui est très vieillosse. Tu peux pas bien t'entraîner, tu peux pas être compétitif si ta base d'infrastructure ne l'est pas. Donc c'est peut-être là où faut peut-être pointer du doigt Aston Martin et justement qu'il s'améliore sur ce point-là.
Quel est ton point de vue sur l'interview globale d'Adrian Newey? Est-ce qu'il l'a faite à temps, trop tard? Est-ce qu'il se dédouane un peu? Est-ce qu'il explique correctement tout ce qui est fait, Séraphin?
Je pense qu'il est réaliste dans l'approche. Il va pas se voler la face. Il dit forcément qu'il est forcément déçu de par rapport à ce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Même eux s'étaient mis beaucoup d'attentes et il le dit. Donc il est juste réaliste. De toute façon, tout le monde, on va pas se cacher. On peut juste que voir les performances. La voiture, il faut qu'on la voit en piste parce que en début de saison, on pouvait se dire oui, ceci, cela, mais tant qu'on n'avait pas la voiture en piste, voilà. Déjà, de ne pas avoir la voiture en piste aux premières séances d'essai, c'était très inquiétant.
C'est une indication, c'est sûr.
Parce que c'est toujours pas un bon signal. Et dès qu'on a vu le premier week-end, et d'ailleurs, il le dit, dès qu'ils ont vu les premières séances d'essai à Melbourne, ils se sont dit, oh là là, il y a quelque chose qui ne se passe vraiment pas bien du tout. Donc, je pense, dans l'approche, il est réaliste. Après qu'il ait pris la parole à ce moment-là, on ne sait pas tout en interne. Il avait peut-être aussi quelques problèmes de santé, donc des choses personnelles.
Oui, il a dû être éloigné d'Aston Martin pendant quelques mois.
Voilà, on ne l'a pas trop vu, en tout cas, des caméras. C'était plutôt Mike Rack, justement, qui est lui plutôt en premier plan sur les Grands Prix, alors que lui, même s'il est team principal, mais il le dit qu'il se met un peu en retrait de cette partie-là opérationnelle sur les Grands Prix. Et je pense qu'il a raison, il faut qu'il se concentre aussi lui sur la voiture.
Complètement.
On ne peut pas tout gérer. Donc, en fait, je pense que ils sont tellement, tellement bas. Il le dit aussi, c'est que même s'ils vont améliorer la voiture et on attend une voiture B entre guillemets en Hongrie dans quelques Grands Prix,
on va en parler.
On va pas non plus arriver avec deux secondes plus rapide et jouer les points. Donc voilà.
Ilyes, t'as utilisé ce mot tout à l'heure. Je vais poser une question un peu plus globale. Est-ce qu'on est là sur le plus gros fiasco de ces dernières années en Formule 1?
Ouais, je pense que cette décennie, en tout cas, ouais, clairement, parce que bon, le projet Alpine aussi, c'était pas mal. Mais en fait, comparé aux attentes qu'on avait et aux résultats qu'on a, je pense que c'est l'un des plus gros, c'est le plus gros fiasco. Parce que bah, Adrien Noué, on l'a dit, est un des plus grands ingénieurs. Le mec, il a construit des voitures, mais exceptionnelles. La voiture, là, n'avance pas. Et on pensait qu'elle pouvait titiller le top 4 écurie. Là, c'est elle titille le fond de grille.
Les Cadillacs, ouais,
qui est une nouvelle écurie qui part quasiment de zéro. Donc, c'est en fait, je ne trouve pas un projet, en tout cas, qui a connu un aussi gros fiasco.
Séraphin, est-ce qu'on a souvenir d'une déception pareille ou est-ce que pour toi aussi, c'est potentiellement le plus gros fiasco de cette dernière décennie en Formule 1?
Oui, c'est des dernières décennies, c'est sûr. Surtout, là, en cette année, on est quand même passé une révolution technique complète, énorme en Formule 1. Donc là où parfois on a eu des... On prend souvent l'exemple de Haas qui était arrivé en 2016. On était déjà avec 2 années d'hybridation en Formule 1. C'était un projet différent. Ils avaient un moteur Ferrari. Donc il y avait des pièces qui étaient aussi fournies par eux. C'était un cadre plus serein. Là, on part vraiment de... En fait, un peu tout le monde partait finalement un peu de zéro, en fait, clairement, parce que châssis, aéro, moteur et pneus, tout était nouveau.
Oui, après, comme tu l'as dit, il y a des écuries qui se sont projetées plus ou moins tôt dans cette saison. Ça. Mais oui, à la base, oui, on part de zéro.
Qui ont développé, mais eux, c'est plus les années. Moi, ce qui me surprend, c'est les années qu'on a mis à construire en interne. On a fait venir des gens, on a développé une usine flambant neuve. Donc, en fait, fallait forcément qu'il y ait un peu de résultats. Et là, d'avoir toutes ces années... voilà, c'est pas pour le coup Cadillac, eux ils partent vraiment de zéro, donc c'est normal qu'on les ait à ce niveau-là. Eux ils partent de plusieurs années d'apprentissage. On a des gens qui sont là depuis pas mal d'années, donc en fait c'est ça qui est de descendre aussi bas pour eux qui ont quand même accumulé l'expérience.
Bah c'est clair, en fait Séraphin l'a très bien dit, quand on compare les moyens mis en œuvre et le résultat final, bah c'est catastrophique.
Dans cette longue interview, Adrien Nouy, il a aussi parlé de la suite, parce qu'on va espérer que ça aille de mieux en mieux quand même pour Aston Martin, avec notamment des évolutions à venir. Aston Martin va apporter un premier vrai package d'évolution au Grand Prix de Hongrie. Ce sera la 11e manche du championnat, juste avant la trêve estivale. Séraphin, est-ce qu'on sait déjà de quelles améliorations il s'agit? Est-ce que c'est le poids, l'aérodynamique?
Il a plutôt parlé, et je pense que c'est un des éléments importants, c'est le poids. Je pense que cette voiture, je n'ai pas les chiffres, donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est encore plusieurs dizaines de kilos, ce qui est énorme, trop élevé. Donc on apprend que oui, on va pas forcément tout changer, mais c'est plus réduire le poids. J'entendais, il le disait, sur la partie châssis et boîte de vitesse. Ils ont dû même refaire une nouvelle homologation du crash test. Donc ça veut dire quand même que la voiture, il y a des changements importants. On parle aussi d'une nouvelle suspension arrière, c'est pas rien. Donc c'est des changements qui, je pense que la voiture elle va perdre beaucoup de poids. Il n'a pas voulu donner non plus de réelle performance, combien en gain on va gagner, une demi-seconde, une seconde plus, je ne sais pas, ça c'est, il a raison. Mais ce qu'on a fait, en tout cas le choix, et ça c'est assumé, c'est au vu de la performance qui était très décevante, c'est d'essayer d'améliorer d'un coup. On n'a pas fait des petits ajustements. On a essayé d'abord de corriger, en s'en souvient, en début de saison, c'est le moteur. Vous avez des gros problèmes de vibration quand même. Il y avait des pilotes qui se plaignaient que la voiture tremblait et c'était inconduisible. Donc on a essayé d'abord de ramener des éléments dans l'usine au Japon avec Honda pour régler ces problèmes avant d'essayer de l'améliorer. Et ça va venir d'ailleurs dans un second temps. On parle des Pays-Bas pour améliorer le moteur avec l'Azio, on le rappelle. Donc le choix, et je pense qu'il est... voilà. Où ils sont, c'est d'améliorer d'un coup tous les problèmes, pas forcément d'améliorer la performance, mais d'améliorer d'abord les problèmes, le poids, le comportement global de la voiture qui est mauvais, avant de trouver de la performance. Et je pense que c'est le choix. Et puis même, on se projette aussi déjà sur l'année prochaine, évidemment, parce que, il a dit Elias, l'année est forcément déjà cuite.
Oui, en tout cas, on parle déjà d'une version, une vraie version B. C'est limite complètement différent de ce qu'on a pu voir depuis le début. Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à un grand pas en avant, comme a pu le dire Adrien Newey? Ou est-ce que l'écart est encore trop grand pour Aston Martin?
Bah là, je pense que ce qu'ils essayent d'améliorer, c'est pas forcément la performance. Parce qu'en performance, même s'ils gagnent une seconde, bon, ça sera à peine jouer les points. Là où ils vont vraiment devoir s'améliorer, c'est en fait construire une voiture sereine, calme, et qu'on puisse lire et accumuler du roulage avec cette voiture pour ensuite l'améliorer et la rendre très performante. Pour l'instant, le meilleur moyen d'améliorer cette Aston Martin, c'est juste de lui permettre de rouler un week-end entier sans avoir un problème. Il est là le gros axe d'amélioration pour l'instant. Ensuite, là où c'est très risqué, par contre, c'est d'amener autant de package d'un coup.
En une seule fois, oui.
Là où d'habitude, on amène aller un petit fond plat ici. Mmh. En fait, à chaque fois, on essaie de comprendre comment fonctionne cette pièce. Là, amener autant de pièces et essayer de savoir comment fonctionnent toutes ces pièces sur un week-end entier, là, ça va être très compliqué. Et c'est peut-être là où ils vont un peu s'entremêler les jambes.
Après, est-ce qu'ils ont vraiment le choix, Séraphin ? Quand on voit le début de saison, est-ce qu'ils ont le temps de... ah bah tiens, on va mettre un fond plat là
Non, bah, je pense que, Lies l'a dit, je pense que vu qu'il y a des problèmes, et nous, on n'a pas forcément toutes les compréhensions, mais il y a des problèmes structurels, en fait, de cette voiture, entre au niveau du châssis, de l'aéro, du moteur, de la boîte de vitesse. On a les pilotes qui se plaignent souvent de ce genre de problème. La boîte de vitesse, ça revient souvent en ce moment. Donc, il faut déjà que la voiture, il a dit qu'elle soit juste saine, qu'elle puisse faire jusqu'au bout d'un Grand Prix. Là, au Grand Prix précédent, je me souviens d'Alonso qui termine à 3 tours quand même du leader. C'est énorme. Donc, je pense qu'il faut déjà que... Moi, ce que, de manière objective, je pense que si déjà ils se rapprochent des Williams, s'ils sont dans le rythme, ils tiennent le rythme des Williams, bah, ça sera déjà un pas en avant important. Parce qu'ils sont aussi en difficulté, Williams, ils ont mal débuté la saison, mais ils sont quand même devant, en fait, hein, même si ce n'est pas glorieux. On a quand même Alonso et Stroll qui sont avec les Cadillacs vraiment en fond de gris. Donc s'ils arrivent déjà à se rapprocher des derniers, on va dire, des Haas, des Williams, ça sera déjà un pas, je trouve, pour cette saison.
Et puis au milieu de ce marasme, il y a un certain Fernando Alonso, quand même, 44 ans. Il a affirmé être à fond dans le projet Aston Martin malgré les difficultés. Mais ça fait quand même un peu mal au cœur de le voir là-dedans, non, Ilias ?
Ouais, bah après, le problème, c'est que ça fait quand même quelques années qu'il est en souffrance. Pas que Aston Martin, donc bon, c'est compliqué pour lui de retrouver de la performance. Non, forcément, ça fait mal pour lui. Je sais pas ce qu'on peut espérer pour lui, en fait. Parce que, de toute façon, l'étape écurie, c'est verrouillé. En fait, il faut qu'il ait ce génie pour trouver le projet, ou bien qu'Aston Martin redresse la barre de manière incroyable d'ici 2027, mais qu'il ait peut-être une écurie qui sort du lot comme ça, avec du développement, qui puisse lui permettre de reperformer. Mais sinon, il va se battre dans le midfield pendant quelques années encore.
Séraphin, on avait la rumeur Alpine un temps. Qu'est-ce que tu vois pour Fernando ? Est-ce qu'il doit rester chez Aston Martin ? Est-ce qu'on veut le voir partir de cette catastrophe ?
Bah, je pense que la rumeur Alpine, je pense qu'elle est toujours dans les couloirs, hein, faut pas se leurrer. Je pense qu'au vu de la déception qu'il a eue personnelle de cette année, et ça fait plusieurs années, ça fait depuis 2023 qu'il est dans cette écurie et où il a quand même joué les podiums, donc c'est que lui aussi, il croyait, hein, il croyait forcément au projet, et voir Niue aussi arriver, ça a énormément joué. Il a dit que c'est pas la clé, mais la voiture qui va arriver avec les prochains Grands Prix, les performances qu'on va essayer d'obtenir un peu meilleures de cette voiture, va en partie aussi déterminer le choix d'Alonso, parce que son contrat est jusqu'à la saison actuelle, jusqu'à la fin 2026, et tu l'as dit, il a 44 ans, Fernando Alonso, donc je pense que oui, ça va déterminer sa fin d'année avec eux. Si on annonce qu'il y a un vrai gain, et qu'année prochaine aussi, on va déjà commencer à développer, qu'on va revenir avec une base bien meilleure, peut-être que bah, ça va le faire croire encore au projet et rester, mais sinon, il doit forcément s'agacer, et je ne serais pas surpris aussi qu'ils disent, bah, en fait, allez, ça m'a saoulé, votre voiture, c'est de la merde, entre guillemets, je veux finir un peu mieux cette fin de carrière, et qu'ils se retrouvent dans une écurie comme Alpine, ça ne serait pas surprenant, on sait que Briatore, c'est des grands amis, ils ont été champions ensemble, donc... Je ne serais pas surpris qu'il y ait des changements aussi. Voilà. Mais en revanche, ça va avoir une importance sur la silly season, sur tous ces pilotes qui sont en fin de contrat cette année. Alonso a un poids important aussi.
On suivra ça évidemment. Alonso chez Alpine, tu signes, Ilias ?
Ouais, bah forcément. On va dire que c'est toujours plus facile de retourner chez son ex.
Hein. Le remariage.
Ouais, mais tu connais la famille, tu connais la maison, voilà, parce que surtout à son âge, il n'a peut-être pas le temps de se réadapter à une nouvelle écurie, réapprendre à connaître les ingénieurs, la manière de travailler. Donc forcément, bah en fait, le projet Alpine, c'est peut-être le truc qui s'apparente le mieux à lui. Quoi.
Ça sent le vécu, en tout cas. On embrasse ton ex, Ilias.
Non.
Évidemment. Évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire pour Aston Martin. Autre écurie britannique à l'approche de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, les McLaren. Un mot déjà sur la livrée spéciale. Il n'y aura pas de papaye ce week-end à Silverstone. Retour aux sources avec une livrée grise et verte qui fait écho aux couleurs des débuts de l'écurie en 1966. Vous aimez cette livrée spéciale, messieurs ? C'est Raphaël.
Bah écoute, nous qui n'avons pas connu cette époque, j'ai regardé.
C'est pas vrai, t'étais pas là en 1966, c'est étonnant.
Je trouve que c'est un bel hommage. Je trouve que ça a un peu plus d'intérêt, titre personnel, que des livrées un peu bling bling bon. Ou pour mettre en valeur des partenaires. toujours revenir un peu à ses origines, blanc et avec ce vert, effectivement, cette voiture à l'époque conduite par Bruce McLaren. Je trouve que c'est, j'aime bien. Ouais, c'est un côté nostalgique et joli.
Yes.
Ouais, j'aime bien. En plus, ils le font souvent. Ils aiment bien ressortir soit le gris chrome, soit le blanc vert un peu. Ils l'ont fait à Monaco, je me souviens. Ils l'ont fait aussi à Silverstone l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, ils aiment bien un peu ressortir ces livrets-là. Et ouais, forcément, c'est toujours bénéfique.
Mais je pense que les
voir sur une année entière, je demande à voir. Je préfère peut-être ça que le orange papaye.
Les papayes
ouais.
Oui. Bon, bah les papayes, en tout cas, elles abordent ce Grand Prix avec énormément d'ambition. Elles veulent confirmer la dynamique qu'on a pu voir sur les précédents Grands Prix, avec aussi le souvenir du doublé de l'année dernière, Lando Norris, Oscar Piastri. Est-ce qu'on peut s'attendre à une vraie confirmation sur ce Grand Prix de Grande-Bretagne, Séraphin ?
Alors, une confirmation, je n'irai pas peut-être jusque-là, mais en tout cas... Qu'on arrive au moins à venir jouer la deuxième ligne, les podiums, de façon régulière sur les Grands Prix. Je pense que c'est réaliste. Eux-mêmes l'ont dit, en fait, visiblement, cette voiture, elle est bonne partout, mais il n'y a pas un vrai point fort, en fait. Donc, on a du mal aussi à avoir des développements qui fonctionnent. Et d'ailleurs, André Stella l'avait dit le week-end dernier que ça peut prendre plusieurs mois avant qu'on ait une voiture qui soit vraiment qui tienne en fait la tête haute au Mercedes notamment à plus haut. Donc on sort d'un week-end où effectivement Oscar Piastri a fait un bon week-end. Il faut forcément confirmer parce qu'on est à domicile. C'est important. On n'a pas le choix et donc il faut qu'il soit au rendez-vous. Même si moi j'ai peur qu'il se retrouve dans cette situation. Là ils sont troisième au championnat entre Red Bull et Ferrari pardon. Donc j'ai peur qu'il se retrouve un peu dans cette situation un petit moment. En tout cas, déjà, la fiabilité est un peu retrouvée, parce que c'était un gros problème aussi.
Ah, oui, au vu du début de saison, un peu de continuité, même si c'est, entre guillemets, dans ce ventre mou entre Ferrari et Red Bull, ça peut être pas mal quand même pour McLaren.
Oui, clairement. Bah, en fait, c'est Raphaël a dit, le problème, c'est qu'elles sont tout le temps là, les McLaren, 2-3 dixièmes derrière, mais il n'y a jamais cet éclat qui leur permet de jouer la victoire. Là où je veux insister, par contre, c'est le gros point positif. On a enchaîné Barcelone et l'Autriche. Des grosses chaleurs, des gros problèmes de fiabilité avec Ferrari qui a eu des problèmes de puissance, etc. Et la fiabilité, elle a tenu chez McLaren. Alors que c'était ça le plus gros souci en début de saison. Donc je pense qu'une fois qu'ils ont réussi à régler ce petit souci de fiabilité, là, ils vont pouvoir peut-être se concentrer justement sur la performance. Eux qui sont très forts en développement sur les dernières années. Et justement, peut-être deuxième partie de saison, essayer d'aller un peu plus titiller les Mercedes et jouer cette victoire.
C'est ce qu'il a dit, Andrea Stella, d'ailleurs, hein, t'en as parlé rapidement, Séraphin. Il évoque 3 mois de retard niveau développement par rapport aux écuries de tête.
Ce qui est énorme.
Ce qui est colossal. Il a que ce mot à la bouche, presque, le développement, le développement, le développement. On dirait que ça l'obsède, Andrea Stella. On voit les autres équipes se développer un peu plus rapide que soi. C'est vrai que c'est un peu effrayant pour McLaren.
Oui, même Toto Wolff l'a dit par rapport à Ferrari, qui a l'impression qu'il développe beaucoup d'éléments sur la voiture. Il a dit, ils ont cette capacité à avoir une bonne corrélation. Quand il y a un développement qui se fait jusqu'à la piste, souvent ça fonctionne. Donc je pense qu'ils ont un atout à jouer avec ça. Et puis aussi, ce que Stella a beaucoup à la bouche, c'est le moteur. On est client Mercedes, donc on n'a pas forcément les mêmes clés de compréhension pour faire fonctionner le moteur. Ils reviennent beaucoup avec ça. Bah, effectivement, par rapport à ça, la fiabilité, ça a été un élément important. Hein. Il y a eu cette partie. Ce moteur et la partie électrique où il y a eu beaucoup de soucis. Donc attention aussi parce que Mercedes vont pouvoir, ils ont une clé d'amélioration avec la Duo quand même, hein. Ils sont quand même derrière Red Bull. Donc actuellement on ne sait pas quand ça va arriver, mais c'est-à-dire que le moteur Mercedes va peut-être aussi gagner en fiabilité plus que gagner en efficacité, en performance. Donc moi je suis impatient de voir parce que plusieurs mois ça nous met jusque à la rentrée, ça fait beaucoup de grands prix et des points entre guillemets derrière à rattraper. C'est pour ça que moi je pense qu'ils sont un peu dans ce ventre mou de la troisième place et j'ai du mal à les voir avoir fermé en fait.
Un mot des pilotes quand même, intrinsèquement, on a vu un Oscar Piastri retrouvé au dernier Grand Prix. On a un Lando Norris à domicile qui sera sans doute soutenu par des milliers de papayes dans les tribunes. Est-ce que ça peut payer aussi un Grand Prix comme celui-là avec des pilotes qui sont soutenus et potentiellement en forme aussi, Ilias ?
C'est clair, sur cette nouvelle réglementation, en fait, les pilotes ont un grand, grand atout à jouer dans la performance de la voiture, que ce soit niveau confiance, niveau compréhension de cette voiture. Oscar Piastri, j'ai l'impression qu'il commence à la comprendre. En tout cas, à retrouver un certain gain de performance. Norris, lui, était plutôt pas mal, mais avec l'excès de confiance dû au Grand Prix à domicile, ça peut aussi jouer. Donc c'est pour ça que je pense que les McLaren seront peut-être la deuxième force, finalement, à Silverstone, si la fiabilité les laisse tranquilles. Mais ouais, un Norris en confiance, plus un Piastri qui regagne des couleurs, Ça peut être très très fort.
Tu y crois aussi, Séraphin ?
Bah, on va dire que Norris, on l'a presque un peu éclipsé en tant que champion du monde en titre, hein, parce qu'on a beaucoup parlé de Mercedes, et puis il y a Ferrari maintenant, donc on les met un peu en second plan. Effectivement, à domicile, ils ont une carte à jouer. L'année dernière, il a gagné Lando Norris, donc ils sont en bonne situation. Maintenant, c'est à eux de trouver rapidement les clés pour faire fonctionner cette voiture. Et puis oui, c'est sûr qu'à domicile, si on arrive à avoir au moins un podium, ça serait le minimum pour une des deux McLaren, quand même.
Un petit mot, messieurs, de la dernière écurie britannique, Cadillac.
Américaine, tu veux dire. Écurie américaine, Cadillac. Mais qui a quand même un site aussi, un
giron en Grande-Bretagne. Est-ce que c'est vraiment une surprise de les voir galérer autant, sachant que c'est une nouvelle écurie, ou est-ce qu'ils sont à leur place, finalement ? Séraphin.
Alors, moi, à ce stade, j'attendrai quand même de passer la saison en entière. Je trouve que ça s'est beaucoup accéléré sur les Grands Prix. On a eu beaucoup il s'est passé beaucoup de choses et on a vu beaucoup de choses bien et moins bien. Donc, je trouve que de manière objective, ils sont là où ils devraient être. Hein. Ils sont quand même. On les voit avoir des gros problèmes de fiabilité de plus en plus, et ça a du mal à se résoudre. Donc c'est ça qui est dommage. Mais après, encore une fois, vu qu'on part de zéro, en fait, on doit même apprendre à gérer un week-end de course. C'est bête à dire, mais la gestion opérationnelle entre les mécaniciens, sur les stands, on crée tout de zéro. Donc je pense que le châssis de la voiture n'est pas bon. Hein. Il y a quand même des problèmes à ce niveau-là. Mais c'est pas non plus catastrophique. C'est sûr que en termes de temps, en fait, on est souvent à 2-3 secondes. On est dans les temps de l'Aston Martin. Mais en fait, l'évolution avant de passer un step encore une fois et de venir se rapprocher, elle est encore importante pour eux en fait. Donc c'est pour ça que je laisserai passer l'année complète pour voir si en fin de saison, on arrive à se rapprocher et avoir des voitures qui finissent les courses. Pendant les deux, c'est ça qui sera un bon point pour eux.
Ouais, c'est un peu difficile à juger, mais est-ce que s'ils avaient été plus haut, ça aurait été une véritable surprise, ou est-ce qu'ils sont vraiment à leur place, Elias ?
Non, c'est clairement à leur place. Je pense que c'est la dernière force du plateau et c'est totalement normal. En fait, ils partent de zéro. Les écuries, eux, ont de l'expérience sur que ce soit développement, mais aussi comment faire fonctionner un week-end de Formule 1 en entier, et sachant que c'est très dur. En plus, avec les Grands Prix Sprint aussi qui te permettent d'avoir moins de data. Donc, en fait, il faut juste leur laisser du temps. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ont juste besoin de comprendre comment ça fonctionne. Là où, et par contre, gros point positif, ils ont moins de DNF que Aston Martin. Ce qui est quand même pas mal pour eux. Ce qui est un petit titre.
On fera un classement à la fin de la saison des
Mais
DNF.
Ce qui leur permet peut-être aussi d'avoir une meilleure lecture de leurs points faibles pour ensuite justement développer et s'améliorer. Mais en attendant, ouais, c'est juste du temps pour eux qu'il faut.
Et on le répète, mais le choix aussi d'avoir pris des pilotes expérimentés, hein, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, qui ont énormément d'expérience en Formule 1, qui ont été dans des top teams. Je pense qu'en interne, il y a un travail qui se fait aussi pour comprendre et dire là, ça c'est bien, c'est moins bien, on part dans la mauvaise ou la bonne direction. Même si on voit quand même, on peut commencer aussi à observer que Valtteri Bottas, on salue notre ami, on salue Louis Gerbier qui est fan de Valtteri Bottas, mais il est en difficulté, Valtteri, cette année. Pérez, même s'il n'y a pas beaucoup de performances réelles, il est quand même meilleur que Bottas, donc c'est étonnant et il ne faut pas que ça soit non plus trop compliqué parce que derrière, on a Colton Herta, du coup, qui est un pilote américain, qui est actuellement en Formule 2, qui fait une saison de Formule 2 et qu'on veut faire monter, évidemment, en tant que pilote numéro 1. Là, au vu d'une année comme on a, le choix pourrait être, évidemment, de sortir Valtteri Bottas au bout de, je ne sais pas si l'année prochaine, mais en tout cas, avant Pérez.
Tu parles des pilotes, parlons des pilotes britanniques. Il y en a 5 à domicile, je l'ai dit au début de ce podcast. Hamilton, Russell, Norris, Berman, Lindblad. On a un Russell qui reste sur une victoire au dernier Grand Prix. Un Hamilton qui reperforme et qui s'attend peut-être à un 8e titre de champion du monde. Un Norris avec les papayes à domicile. Bon, les deux autres, c'est un peu plus loin dans le paddock. Mais est-ce que vous les voyez peut-être aller chercher ce Grand Prix de Silverstone? Un Hamilton qui va chercher ce Grand Prix de Grande-Bretagne, ce serait une folie.
Mais moi, je vais même me mouiller. Les 5 britanniques finissent dans le top 10. Finissent tous dans le top 10.
J'aime bien.
Et non, honnêtement, je ne vais pas spoiler mes pronos, mais je pense que même les 3 de devant finissent dans le top 5. Parce qu'on l'a dit, si la confiance est clé, les 3 sont en confiance, les 3 connaissent le circuit par cœur, les 3 ont à cœur de performer ici. Donc je pense que c'est Russell sera devant, forcément, parce que c'est lui qui a la meilleure voiture. Donc s'il n'a pas de soucis, Russell sera devant. Mais Hamilton Norris peut pousser derrière fort et même embêter un petit Antonelli. Donc non, les trois sont très forts ici. De toute façon, on les a vus les précédentes années. En général, les trois sont devant, les trois se bataillent entre eux. Et donc, je pense que peu importe la performance, leur niveau et leur connaissance de l'environnement va leur permettre, on va dire, de combler le retard ou en tout cas de gagner certaines performances sur un Grand Prix Sprint.
C'est Raphaël. Je te vois faire la moue.
Moi, ouais, j'ai même osé, mais avant le week-end, je vois s'imposer Lewis. Je trouve que la dynamique qu'on a avec cette écurie et je trouve aussi avec quelques évolutions, alors qui peut paraître mineures, mais là, chez Ferrari, on va apporter une amélioration de leur aileron dit Macarena, où on va améliorer du coup la rapidité du mécanisme d'ouverture-fermeture, ce qui est Red Bull avait, eux, développé ce point de vue-là. Et on va aussi un peu diminuer la traînée avec un diffuseur un peu revu et aussi des améliorations au niveau de l'échappement. Donc, l'objectif, c'est de regagner en vitesse de pointe. On sait que le moteur, on a eu une petite évolution, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'amélioration réelle sur la vitesse de pointe. Je ne pense pas que c'était vraiment l'objectif parce qu'on a joué sur autre chose. Mais je pense que les qualités de cette Ferrari, avec je vois bien dans l'enchaînement, même à Cops, dans les virages rapides, je pense que Ferrari, ils l'ont montré avec les précédents Grands Prix, je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer. Et avec la dynamique que Hamilton, il a depuis 3-4 Grands Prix, et il va être à domicile, je pense qu'il peut nous sortir, une course de fou. Et s'il fait, il avait gagné il y a 2 ans, on s'en souvient, son avant-dernière officiellement avec Mercedes.
Ouais.
Mais même si, attention, dès le départ, Mercedes va être devant, parce qu'on a vu que même s'il y a des Grands Prix où un coup c'était Ferrari, là on a vu Red Bull, Ken Bernier qui était extraordinaire et Max Verstappen qui était extrêmement performant. Mercedes, quoi qu'il arrive, ils ont la voiture, elle est très bonne partout. Donc ils vont jouer forcément aux avant-postes. Mais je pense que Lewis Hamilton, il peut peut-être nous sortir une deuxième victoire avec Ferrari cette année.
Ouais, j'aime quand tu nous vends du rêve comme ça.
Ouais, je voulais mettre Lewis Hamilton premier parce que forcément le cœur le veut, mais aussi niveau performance ces derniers temps, il est devant. Mais ce qui me fait très peur avec les Ferrari, c'est la dégradation en fait. Et je pense qu'à part coup de stratégie de Ferrari comme à Barcelone ou coup de safety car, voilà, un petit truc avantage Hamilton, je pense qu'à la régulière, la dégradation va permettre aux Mercedes de, sur un Grand Prix entier, le repasser devant. Mais par contre, je le vois clairement troisième parce que, et je pense même qu'il va embêter les Mercedes. Mais sur tout un Grand Prix à Silverstone, ça va être très dur à la régulière de gagner.
Donc ton podium, c'est Mercedes et Hamilton derrière ?
Ouais, Russell, Antonelli et Hamilton.
Très bien. C'est Raphaël ?
Moi, j'ai mis, il me semble, Hamilton, Russell.
Non, Antonelli-Russell.
Antonelli-Russell.
Ouais. Hamilton-Antonelli-Russell.
Voilà. Oui, parce que je pense que forcément Mercedes va être derrière. Et en revanche, petit clin d'œil, tu l'as dit quand même, pilote britannique Arvid Lindblad, qui est rookie cette année et qui est très performant depuis plusieurs courses avec Lawson, parce que la voiture, elle est sereine et ça fait 3 fois consécutivement qu'ils sont dans les points. Donc si Arvid Lindblad monte aussi sur le top 10, en tout cas, marque des points ce week-end, je ne serais pas surpris parce qu'ils sont dans une bonne dynamique et c'est bien récompensé aussi de leur part. Il y a eu un travail qui était bon avec cette voiture.
Je sens que tu vas faire un tout pile. Tu me parlais du top 5 tout à l'heure. C'est quoi la suite avec Norris dedans?
Alors, je pense que ça fait Russell, Antonelli, Hamilton, Norris.
Et le cinquième?
Piastri. J'hésite avec Verstappen.
Ouais,
J'hésite avec Verstappen.
Max, il ne faut pas l'enterrer, évidemment, Verstappen.
Le problème, c'est que Verstappen est toujours là. Tu ne sais jamais, mais il sera toujours là.
Il sera là, bien sûr.
Ouais, bien sûr. Puis on a amélioré beaucoup la voiture le week-end dernier. Je pense que c'est un tracé aussi qu'il affectionne particulièrement, Verstappen. Donc dans ces enchaînements, je pense que en fait, je trouve que les top teams, on est quand même assez. Je trouve que il faut se rendre compte, mais pour une année 1, en tout cas avec les quatre top teams, on est quand même assez proche et de plus en plus. Le week-end dernier, on était en moins de 2 secondes avec les 3 pilotes. Je pense que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette course. Je crois que c'était en 2022 avec la première année de réglementation. On avait eu une course extraordinaire avec les 3 et les 4 top teams même qui se battaient et on avait moins d'heures, donc on arrivait à se redoubler dans ces enchaînements. J'espère qu'on va te revoir aussi une bataille avec ces top teams et des belles batailles entre ces voitures. On peut être, je pense, assez proche, on va espérer.
De toute façon, au fil de la saison, plus les Grands Prix vont passer, plus le développement va avancer, plus les top teams, entre guillemets, sont censés être de plus en plus proches les unes de l'autre, non ?
Tu l'as dit, censé.
Censé.
Le développement Ferrari, il me fait toujours peur, moi.
Puis il ne faut pas oublier le contexte de la saison européenne qui aide aussi à ce rapprochement-là.
C'est clair, mais par contre, on voit quand même qu'il y a une certaine uniformisation des performances, dans le sens où Verstappen revient devant et arrive à se batailler avec eux. Les McLaren aussi reviennent dans la danse. Mercedes a toujours un petit avantage. Mais c'est vrai que dans quelques mois, on peut voir les quatre top teams se jouer en 2-3 dixièmes selon les grands prix, selon les forces de chacun. Mais voilà un peu, c'est changer les positions.
C'est forcément une bonne chose pour la F1.
Oui, bien sûr. Je pense que rien que voir la victoire d'Hamilton, on l'a dit, ça a été unanime. Toute la Formule 1a salué sa victoire. Donc si là, on peut avoir une victoire, peut-être une Red Bull ou même plus tard d'une McLaren, ce sera forcément bien. On ne veut pas avoir une domination complète des Mercedes. Ça serait le mauvais scénario. Donc moi, quand on sort un peu de l'instantanéité d'une course, hein, parce que parfois, on a vu Ferrari revenir et gagner, on s'est dit ah, c'est super, ils vont encore être devant. Finalement, Mercedes, ils ont montré qu'ils étaient de nouveau là. Là, c'est Red Bull qui a surpris, donc on peut se dire ah, ça y est, Verstappen avec Red Bull, ça va fonctionner. Non, je pense qu'il y a encore d'autres éléments. Donc la globalité, Mercedes est encore devant, mais en fonction des tracés, je pense qu'ils ont tous à un moment donné une qualité, quelque chose à jouer. Et donc, c'est pour notre plus grand plaisir finalement d'avoir ces courses diversifiées et où les écarts sont assez faibles. Ouais.
Et peut-être que ce week-end, on sera surpris par Aston Martin. Non. merci Séraphin, merci Ilyes. On va suivre ça évidemment sur RMC et dans le paddock RMC. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous lundi pour débriefer ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Salut à tous.
Le paddock RMC.